Bonjour, bonjour chère famille, bonjour à chacun. Je pense qu'on a passé un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Merci à Fabien de nous avoir conduits dans ces chants. Et tout de suite, j'ai envie moi aussi de rendre témoignage. Fabien a parlé tout à l'heure de chaussures. Je crois que certains tout de suite se sont dit, oh là là, c'est quoi ce témoignage pour avoir des chaussures? Mais oui, Dieu veut s'occuper de tes chaussures, il veut s'occuper de tes chaussettes, il veut s'occuper de ton t-shirt, il veut s'occuper de toi complètement. Et j'ai un témoignage à rendre parce que Dieu veut s'occuper aussi de notre joie. Et il y a une sœur, alors qu'on était à l'église, dans la maison, chez nous et qu'on partageait ensemble dans la communion fraternelle et j'ai senti qu'elle était un peu triste, un peu renfermée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Et elle dit, je suis angoissée, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai mon passé qui me poursuit. Je me dis, je n'ai pas bien fait depuis longtemps et maintenant je me dis, Seigneur, comment je peux redresser tout cela? Et mes nuits sont des nuits d'angoisse. Alors on a pris le temps. Parce qu'on n'a pas la solution, nous. Et comme Pierre, on peut lui dire, on a pu lui dire, ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas dormir correctement, tu seras en joie. On a prié ensemble, simplement, et elle est rentrée chez elle. C'était un mardi. Le dimanche qui a suivi, après la célébration, le culte, la sœur vient me voir, toute en joie, toute souriante, et me dit quelque chose s'est passé. Alors que on était en train d'adorer Dieu et qu'on était dans la phase des offrandes. C'est aussi de l'adoration. Dans cette phase des offrandes, dès que j'ai donné mon offrande, j'ai senti un poids lourd sur moi. Je n'ai pu résister. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Je me suis senti emporté et la joie m'a rempli. Je sens une joie. Et ça, c'est Dieu. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Le thème de ce message, c'est crois simplement. Crois simplement. Quelquefois, on a plus facilité à croire, je pense que je suis comme ça et vous êtes aussi comme ça, on croit au fait que Jésus est venu sur terre, on le croit, n'est-ce pas? Tu crois effectivement qu'il a donné sa vie à la croix, qu'il a été crucifié, qu'il est mort pour toi, tu le crois. Tu crois aussi que il va revenir te chercher et tu crois aussi que quand tu vas mourir, si Jésus ne vient pas avant cet événement, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu le crois vraiment. Tu crois au salut. Ça, c'est bien. C'est l'évangile qui est apporté. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut intervenir pour te donner des chaussures comme à Fabien? Est-ce que tu crois que Jésus peut intervenir pour te donner la joie alors que tu es troublé, tu es angoissé? Pourquoi avons-nous la facilité de croire en l'éternité? Mais dès que Jésus veut qu'on ait le concret, qu'on vive le concret dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, on est plus simple. On commence à raisonner. On se dit, non, mais tu sais, scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Physiquement parlant, c'est un peu compliqué. Cette maladie-là, les médecins ont déclaré que il n'y a pas de solution. Ma situation d'angoisse, ma situation de divorce, ma situation familiale est trop compliquée et je commence à remuer dans ma tête des situations et je me dis ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je ne suis pas simple? Ce matin, j'ai envie d'annoncer ceci, mon frère, ma sœur. J'ai envie de le dire à moi-même. Gérard, sois simple. Crois simplement. Les choses vont se passer. Si tu crois, il y a une dame, une vieille dame qui va venir avec une paire de baskets et qui va dire, écoute, ça ne va pas, mon mari, prends-le. C'est ce que Dieu veut. Il veut du concret dans notre vie. J'entends quelqu'un qui va dire, il est excité ce matin. Mais oui, ça brûle en moi. En fait, Jésus, quand il va aller, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 14 ou Matthieu chapitre 15, quand il va se mettre à l'écart, il va dire à ses disciples, on se met à l'écart. Il vient d'apprendre le décès de son cousin Jean-Baptiste. Il a laissé faire les choses. Il est Dieu. Alors il va se mettre à l'écart parce que il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il avait des émotions comme toi et moi. Et il va se mettre à l'écart pour faire le deuil, on va dire ça ainsi. Et il va voir la foule qui va le suivre. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion pour cette foule. Ça brûlait dans ses tripes. Et moi, je sens cette compassion ce matin du Saint-Esprit qui brûle dans mes tripes et qui dit, écoute, tu vas être guéri. Écoute, je vais être guéri. Et ce que Jésus a fait, juste quand il a été ému de compassion, il a guéri la foule et il a nourri physiquement. C'était pas que du spirituel. C'était pas que de la grosse théologie. C'était pas que des études bibliques. Non, non, non. Il a dit, donne-leur à manger. Et il a multiplié les pains et les poissons pour qu'ils mangent le physique, le concret. Quand je dis croire simplement, on est dans cette série de la simplicité. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'on ait le raisonnement simple de la vie spirituelle, qu'on ait cette compréhension-là. Alors, croire simplement, attention, j'aimerais vraiment m'arrêter dessus. Croire simplement ne veut pas dire être naïf. Ne veut pas dire être naïf. Je me suis surpris à plusieurs reprises à dire, tu sais, si tu as la foi d'un enfant, ça va aller. Je pense que plusieurs personnes qui écoutent ce matin ou qui écoutent à nouveau ce message enregistré, qui ont souvent échangé, avec qui j'ai souvent échangé, vous avez dû entendre cela. Si tu crois comme un enfant, ça ira. Mais non, attention. Attention, la foi simple n'est pas la foi simpliste. Je ne veux pas qu'on soit simpliste. Je ne veux pas qu'on soit naïf. Le Saint-Esprit ne veut pas des neuneux. Il ne veut pas des bénis oui-oui. Il veut des personnes qui croient, qui savent en quoi ils croient et qui croient, mais simplement. Il veut des personnes qui reconnaissent les limites physiques, les limites scientifiques de ce qu'ils vivent. Tu es conscient de ta situation qui est compliquée? C'est très bien, c'est un bon terreau pour que la foi prenne appui et qu'elle se manifeste dans le concret. On ne peut pas dire d'être comme des enfants dans la foi. Non, écoutez ce que la Bible dit, Éphésiens 4, versets 11 à 15. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pour le perfectionnement des saints. Tu peux faire un coup de coude à ton voisin. Perfectionnement, mon ami. Perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Verset 13. J'aime ce verset. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. La parole est claire là-dessus. Dieu veut des personnes qui arrivent à maturité. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas en quoi elles croient, mais elles doivent croire quand même. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du simplisme, mais c'est être simple dans la foi. Et on va voir quelques fondements. Deux petites clés tout à l'heure de comment je peux être simple en fait, mais j'aimerais vraiment mettre le focus. Je crois que le message en lui-même peut s'appuyer sur cette partie-là. Quand je le préparais, j'avais ça. Donc croire simplement ne signifie pas croire naïvement. Tu peux ne pas être naïf. Tu ne dois pas être naïf. Tu dois croire. Tu dois comprendre ce qu'il y a. Tu dois avoir la mesure parfaite de la difficulté. C'est très bien. Mais tu peux être simple dans la foi et tu vas voir l'Esprit agir. Croire simplement, j'ai envie de dire, est égal à croire en comprenant et en connaissant parfaitement celui en qui je crois. Je le redis. Croire simplement, c'est croire en comprenant et en connaissant parfaitement celui en qui je crois. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas croire en lui. Si tu ne connais pas sa puissance, tu ne peux pas croire en lui. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Je ne vais pas aller là-dessus, c'est un autre débat. Mais juste pour dire, ils croient et ils tremblent. Est-ce que tu crois et tu trembles ou tu crois et tu as l'émotion de la joie parce que Dieu va agir dans ta vie? J'aimerais qu'on puisse regarder, je mets cela, si je pouvais faire un ring ce matin, entre croire simplement et croire naïvement, parce que je pense que là, il y a quelque chose à vraiment labourer et à éclaircir afin qu'on puisse rentrer dans les promesses de Dieu. Donc, croire simplement versus croire naïvement. La différence entre ces deux croyances est la compréhension de ce en quoi je crois ou celui en qui je crois. Si tu n'as pas cette compréhension spirituelle, tu vas être dans la naïveté. Tu vas être dans le simplisme. Et ce n'est pas le message ce matin, ce n'est pas la série qu'on est en train de faire ce matin, pendant cette saison. La simplicité n'est pas être simpliste. Donc attention, il n'est pas question d'être naïf ici, les amis. La foi naïve, j'ai envie de dire que si tu vois tes limites physiques, tu vois tes limites scientifiques, scientifiquement tu décris que cette situation est compliquée, je l'ai dit tantôt, alors c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire. Il ne faut pas se dire, ah non, il ne faut pas penser à ce que les médecins ont dit. Il ne faut pas penser, il ne faut pas écouter ce que les médecins... Si. Les médecins ont dit, on a fait tous les examens, on ne voit rien. Alors que mon fils était malade pendant 2 mois, il avait comme une gastro, il vomissait tous les repas qu'il mangeait, il a perdu 4 à 5 kilos en rien que 2 mois. On est allé à l'hôpital à plusieurs reprises et alors qu'on était aux urgences de pédiatrie, les médecins ont fait tous les examens. Mais il est rentré, l'interne, dans la chambre et m'a dit, monsieur, je ne sais pas, je ne comprends pas, il n'y a rien. On ne voit rien. Je me suis dit, merci Seigneur, parce que là, c'est toi qui es en jeu. La médecine vient de démontrer que ce n'est pas possible, on ne voit rien, rien n'est faisable, il faut juste attendre. Alors là, tu vas entrer en jeu. Et Dieu est entré en jeu. Dieu est entré en jeu. Et un jour après, alors que je sais que dans la nuit même, pasteur Romaric a fait le tour de l'hôpital, il a prié, il a intercédé, ça s'appelle la foi simple. Il a marché, il a prié, il m'a dit, je suis en train de prier. Et je me suis mis en prière aussi. Le lendemain, le surlendemain, on a été libérés. Et mon fils a été guéri. C'est la foi simple. C'est bon. Vois ce qui se passe dans le physique, mais va plus loin, mon ami. Va plus loin. C'est quoi avoir une foi naïve? Je vais prendre un exemple dans la Bible. Parce que ce n'est pas ce vers quoi nous voulons aller. Peut-être qu'on peut en trouver d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres d'exemples de naïveté. J'ai pris l'exemple des 7 fils de Séva dans Actes 19, 13 à 16. Ces personnes-là, je ne vais pas lire le texte, mais ces personnes-là ont entendu et ont vu Paul prêcher et les miracles qui suivaient Paul. Ils ont vu des miracles se manifester. Ils ont vu certainement Paul prier et dire « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, je chasse les démons. » Ils ont même vu que les gens prenaient les mouchoirs de Paul dans lesquels ils se mouchaient, hein, et ils touchaient les malades et les malades étaient guéris. Waouh! C'est pour nous ça aussi, ce n'est pas que pour le premier siècle du christianisme. Et ces gens ont cru, c'est bien, ils ont cru qu'au nom de Jésus, on peut guérir. Au nom de Jésus, on peut chasser des démons. Et la Bible dit que c'était des exorcistes. Je fais attention pour bien prononcer ce mot. C'était des exorcistes, donc c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient habitués à essayer de chasser les mauvais esprits des corps. Et donc, ils se sont dit, waouh, voici une nouvelle méthode, une nouvelle technique pour réussir. Il faut juste dire au nom de Jésus. Mais en fait, je crois. Mais c'est bien ça. Au nom de Jésus, comme Paul, ça devrait aller. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés lynchés par les démons parce qu'ils se sont juste arrêtés à croire naïvement au nom de Jésus que Paul prêche. Ça doit se passer ainsi. Si tu crois qu'au nom de Jésus que pasteur Romaric prêche, au nom de Jésus que Fabien vient de déclarer, tu vas vivre la même chose, tu es prêt pour la défaite. Je suis prêt pour la défaite. C'est pas ce que veut notre Dieu. Être naïf, ne pas savoir ce en qui j'ai fondé ma foi. Fabien l'a chanté tout à l'heure, j'ancrerai ma foi en toi Seigneur, je vais croire en toi. C'est dans ton amour, dans ta puissance que je vais ancrer ma foi. Et c'est là que je peux être simple en croyant. Il faut savoir en qui je crois, il faut savoir qui est en face. J'ai envie de dire ceci, plus tu comprends, je martèle cela. Plus tu comprends les défis, sans les ignorer, bien sûr, mais en ayant en même temps la compréhension de la grandeur de Dieu pour toi, plus tu seras simple dans ta foi. Ne détache pas les deux. Gérard, détache pas les deux. Seigneur, je veux vraiment être conscient. Je suis conscient de ce qui est dur, mais en même temps, je suis conscient de qui tu es. Je sais qui tu es. J'aimerais donner un exemple ou même plusieurs. J'avais mis dans le texte un seul exemple, mais le Saint-Esprit m'a poussé vers quelques exemples. J'aimerais prendre un exemple de Bartimée dans Marc chapitre 10. Un exemple de Bartimée, on le voit à partir du verset 46 dans Marc chapitre 10. Bartimée, c'était un aveugle, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Et Timée signifie homme d'honneur, homme plein d'honneur. Et Bartimée, qui était le fils d'un homme plein d'honneur, devait vivre dans l'honneur, dans j'ai envie de dire, être honoré, quelqu'un de reconnu. C'était ça sa destinée. Mais Bartimée s'est retrouvé aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Et Bartimée était là, au port de Jéricho, et chaque fois, il devait certainement fermer les yeux, il ne voyait rien, et chaque fois qu'il entendait des gens passer, il disait, oh, qui est-ce qui passe? Et on lui dit, oh non, c'est Gérard qui passe. Il se dit, oh, j'en ai rien à faire, Gérard, c'est bon. Oh, mais qui est-ce qui passe? Ah non, c'est Pasteur Omarie qui passe, celui qui a prié, et des gens sont guéris. J'en ai rien à faire. J'attends. Et un jour, il dit, mais qui passe là? Il y a du monde. Et on lui dit, c'est Jésus. Et il se lève, Bartimée. Et regardez ce que fait Bartimée. Il dit, Jésus, fils de David. Waouh. Bartimée connaissait Jésus. Il connaissait la descendance. Il savait d'où Jésus venait. Il savait qui était devant lui. Il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié non pas parce que Gérard passait, non pas parce que Fabien passait, mais il a crié parce que Jésus, le fils de David, est en train de passer. Et ça, c'est bon, ça. C'est simple. Vous savez ce qu'il fait au verset 50? Il va se lever quand Jésus va dire « Viens ». Il va jeter son manteau qui le couvrait et qui empêchait d'être un homme d'honneur. Il va le jeter et il va bondir. Mais ce qui me plaît, c'est ceci. C'est que Jésus va dire à Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon frère, ma sœur, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Et dans tes pensées, tu te dis, mais Seigneur, tu me connais, tu sais toutes choses. Pourquoi tu me poses encore la question? Tu sais très bien que si je crie là, que je suis assis, je suis aveugle, je suis mendiant, c'est parce que c'est justement ce pourquoi je crie vers toi, Seigneur. Comment me demandes-tu, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la Bible dit ceci. L'aveugle a répondu, Rabouni, et ça c'est fort. Déjà, il le reconnaît comme fils de David et il le reconnaît comme maître. C'est là la connaissance. Il n'est pas naïf, notre Bartimée. Il n'est pas naïf. Il n'a pas une foi de neuneu, une foi de béni oui-oui. Non, c'est pas parce qu'on lui a dit, mais il sait à qui il a affaire. Il sait que c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il sait que c'est le créateur de l'univers, Bartimée. Il le sait et il dit, maître, maître, que je recouvre la vue. Voici mon désir, voici ce que je veux recouvrir la vue. Et il dit, et regardez ce que Jésus dit, ça me plaît énormément. Il dit, et Jésus lui dit, verset 52, va, ta foi t'a sauvé. Et derrière, l'aveugle a retrouvé la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Quelle foi Bartimée a eu là? Une foi simple. Mais pas une foi simpliste. C'est une foi qui a la compréhension de qui est en face de toi, qui sait que c'est l'Éternel des armées qui va le faire. Une foi qui sait que Dieu veut s'occuper de tes chaussures. Franchement, je prends ce... Merci Fabien pour cet exemple. Dieu veut s'occuper du concret, du physique. Arrête de croire que c'est simplement la vie dans l'éternité. C'est vrai. C'est ça le royaume de Dieu. Mais quand tu pries et que tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, quand Jésus le dit, quand il parle de la terre, il parle de la terre. Il parle pas d'une autre terre. Il parle pas de la nouvelle Jérusalem. Il dit sur terre, physiquement, je veux le faire pour toi. Le temps passe. Je donne un second exemple. Et on va rapidement voir une situation dans laquelle Jésus veut vraiment faire quelque chose de concret dans notre vie. On va prier ensemble pour les situations que nous avons. Un autre exemple, j'ai pris l'exemple de la foi de Sarah. Alors là, c'est quelque chose que je trouve extrêmement, extrêmement hallucinant. Dans Hébreux 11, verset 11, il est dit ceci, « C'est par la foi que Sarah, la femme d'Abraham, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est hallucinant parce que, normalement, quand on parle de Sarah, vous avez l'image dans votre tête, c'est celle qui a ri. Quand Dieu était dans la tente, de l'autre côté de la tente, avec Abraham, et que Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à cette époque-là même, ta femme va enfanter ton enfant, elle avait presque 90 ans, elle était cachée, elle était derrière la tente, et elle s'est mise à rire en elle-même, et elle a dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de raconter? Elle a pensé ainsi, elle dit, voici, elle a fait le constat, et fait le constat ce matin, fais-le, c'est très bien, elle a fait le constat, elle a dit, physiquement, voilà, j'ai quasiment 90 ans, scientifiquement, ce n'est plus possible, plus rien ne fonctionne, je ne peux plus procréer, je ne peux plus, tous les organes ont vieilli, tout est mort. Alors, elle fait le constat, mais seulement elle s'arrête à ce constat et elle en rigole. Et Dieu va lui dire, Sarah, pourquoi tu ris? Ce qui est étonnant, c'est que Sarah, dans Genèse 18, verset 12, on voit cette histoire-là qui prend place. Sarah va mentir, elle va dire, non, j'ai pas ri. Et effrayée. Et la Bible dit que Sarah mentit car elle eut peur. C'est ce qui fait que Sarah est dans Hébreux 11 aujourd'hui. J'étais en train de lire cela et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu vois ce qui s'est passé? La simplicité de la foi ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Sarah a eu peur? Elle a eu peur, non pas parce qu'on l'a pris la main dans le sac, mais parce que elle n'a pas cru à celui qui était en face, et celui qui était en face, elle le connaissait. C'est l'Éternel des armées qui est en train de lui dire, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Et elle est en train de douter. Elle s'est dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, comment est-ce que j'ai pu douter du roi des rois, de l'Éternel des armées? Et elle a pris peur, et tout de suite, dans la panique, elle dit, non, j'ai pas ri, pardon, j'ai pas ri. Mais Dieu a vu le cœur de Sarah à ce moment-là. Sarah qui a dit, qui a reconnu en elle-même, par cette peur, de dire « Waouh, je suis devant le Créateur de l'univers et je me permets de douter. » Et à ce moment-là, Sarah va se retrouver dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Voilà ce qui se passe, la foi simple. Simplement, ça a pris place et Dieu a agi. Et Dieu veut le faire pour chacun de nous aujourd'hui. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse parce que j'y ai pensé et ça me vient fortement dans la tête. Quelquefois, je me surprends moi aussi à prier ainsi. C'est une parenthèse que j'ouvre. Quelquefois, quand on prie, on a l'impression qu'on impose des choses à Dieu. Et ça vous arrive, je crois, de dire, Seigneur, tu le fais. Je pense qu'il y a plusieurs derrière l'écran ou qui écoutent en ce moment même, qui sont en train de se reconnaître dans la chose. Tu le fais, Seigneur, tu le fais. Bon, arrêtons de donner des ordres à Dieu. C'est lui qui le fait, certes, mais dans la prière, soyons dans la supplication. La foi ne veut pas dire imposer des choses à Dieu. Veillons sur cette attitude. Je me le dis à moi-même ce matin. Je l'ai mis en parenthèse et donc j'ai voulu en parler. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder deux petites clés rapidement, je vais faire très vite, dans l'histoire qui prend place dans Jean le chapitre 11, du verset 1 au verset 44. Il est question ici de l'histoire de Lazare. Lazare, un ami de Jésus, avec ses sœurs, Marthe et Marie, et Lazare va mourir. On va lire les premiers versets, on va lire jusqu'au verset 7 d'abord. Verset 1. « Or, il y avait un certain homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère. » Bon, une explication pour faire les liens ici. Donc, on connecte tout ça et on y va. Verset 3. « Les sœurs donc envoyèrent vers lui, vers Jésus, disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et il dit au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Regardez, regardez ce qui va se passer. Verset 5, verset 6, retenez très bien ceci. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Après donc, alors donc, ça dépend des traductions. Je suis dans la version Darby ici. Donc, alors après donc, qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. En fait, dans cette histoire-là, il y a quelque chose de fou qui prend place. La question que je me pose en regardant cette histoire, Seigneur, est-ce que j'ai une substance pour croire simplement? Comment est-ce que je peux faire? Certes, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais sur quoi je peux m'appuyer pour croire vraiment simplement? Certes, il faut que je te connaisse, il faut que j'apprenne à te connaître, il faut que je sache en qui j'ai foi. Et là, la première substance que j'aimerais annoncer, c'est Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais surpris de ce qui nous arrive. On le voit dans le verset 11 à 14. Lazare, notre ami, Jésus va dire, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour le réveiller. C'est-à-dire que Jésus se rend compte que Lazare est malade. Au lieu de se lever et d'aller voir Lazare, il reste là quelques jours, mais il annonce déjà à ses disciples, il dit, cette maladie, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, dans le ciel que nous vivons, plus de 2000 ans après, ce que le Seigneur veut que nous apprenions nous-mêmes, c'est qu'il veut des choses concrètes dans notre vie. Jésus aurait pu guérir Lazare de loin et c'était fini. Mais il veut démontrer quelque chose ici. Premièrement, il n'est pas surpris. Alors qu'il est très loin, la Bible dit à plus de 2 jours de marche de Béthanie, Jésus sait que Lazare est mort au verset 11. Il sait que Lazare est mort et il va l'annoncer à ses disciples. Il va annoncer à ses disciples comme pour les préparer aussi au miracle qui va prendre place, pour que leur foi puisse prendre place. Il va dire, regardez, je vais faire quelque chose. J'annonce le royaume de Dieu. Certes, mais je veux que vous le viviez concrètement dans votre vie. Et là, je vais vous donner un exemple avec cette situation qui arrive à Lazare. Jésus n'est pas surpris. Tu as une situation qui est en train de t'arriver en ce moment et tu te dis, Seigneur, où est-ce que tu es? Il te répond, je ne suis pas surpris. Tu manques de nourriture. Tu te dis qu'on est le 16 du mois et qu'à partir du 20, ça va être compliqué. Jésus te dit, je ne suis pas surpris. Tu as une maladie qui s'accroche à toi et qui ne veut pas te lâcher. Et tu te demandes même si Dieu est au courant. Jésus te dit, sois simple dans ta foi, je ne suis pas surpris. Fonde ta foi simple sur le fait que Jésus n'est pas surpris. Il sait toute chose. Il sait toute chose. Il sait toute chose. Et moi, j'ai envie vraiment de garder ceci. Je peux être tranquille et croire simplement parce que Jésus sait ce qui m'arrive. Rien ne le surprend. La Bible dit dans 1 Jean 3, 20, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toute chose. Il sait toute chose. Donc, si tu as le doute qui vient, si tu te dis, oula, c'est trop compliqué, et tu commences à être complexe dans ta façon de raisonner, et tu ne crois pas vraiment, et ta foi est en train de vaciller comme un petit enfant, et y a une chose, arrête-toi et dis, Jésus n'est pas surpris de ce qui m'arrive. Il n'est pas surpris. Deuxième élément que j'aimerais souligner, que je ressors de ce texte, c'est que, en fait, Jésus, il veut du concret dans notre vie, et je souligne, physique, matériel. Il faut que ce soit palpable, il faut que ce soit tangible, il faut que ce soit concret. Et il veut le faire. Il aurait pu rester là où il était et continuer de prêcher, mais il a voulu que la maladie parte jusqu'à la mort pour montrer que concrètement, dans le physique, il veut aussi agir dans nos vies. Et il a fait tout au long de son ministère. Il a prié, il a guéri des malades, il a donné à manger à des foules entières. Pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis si compliqué à me dire que ce n'est pas ce qu'il veut pour moi? Pourquoi? Il le veut pour toi. Tu n'es pas en train de dériver théologiquement si tu crois que la puissance de Dieu est pour aujourd'hui. Et elle est pour aujourd'hui. Elle n'est pas pour hier. Elle est pour aujourd'hui. Elle n'est pas pour un réveil à venir. Elle est pour toi aujourd'hui. Jésus le veut physiquement. Regardez, ce qui est surprenant, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le verset 6. Le mot de liaison qui est utilisé par le Saint-Esprit ici, c'est « donc ». Donc, Jésus entend que son ami qui l'aime, Lazare, est en train de mourir, est malade. Donc, il reste. C'est Jésus qui aurait pu dire qu'il soit guéri et allez-y vérifier à cette heure même, il est guéri. C'est arrivé, il a fait. Il aurait pu dire, on y va les disciples, je vais démontrer la puissance de Dieu. Il aurait pu. Mais donc, il reste. On aurait souhaité plutôt écrire « et pourtant », pour être dans un sens d'accusation. « Et pourtant, il reste. » Ça ne va pas, mais quand même. « Et pourtant, il reste. » Mais le Saint-Esprit dit « donc, il reste. » Donc, dans le « donc », il y a quoi ?« Donc, c'est quand je veux faire quelque chose, j'ai une raison pour le faire. J'ai une raison valable. Je ne suis pas dans l'accusation. Je suis pas paresseux. Je ne vais pas. Pourtant, je reste. Je n'y arrive pas. Je suis flegmatique. Non. Jésus décide de ne pas aller. Le « donc » signifie que Jésus veut que quelque chose se passe, que toi et moi, on puisse comprendre qu'aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, il veut la manifestation de sa puissance dans notre vie. Donc, il attend. Et ce jour-là, il a pensé à Gérard, à moi. Il a dit, Lazare est malade. Pour que Gérard comprenne que, Gérard, dans 2000 ans, comprenne que je veux du concret dans sa vie, je vais attendre. Je vais attendre 2 jours jusqu'à ce que la maladie partent jusqu'à la mort. Et là, je vais dire à Gérard ce que je veux dans sa vie, concrètement, dans ce siècle où il vit. Ça, c'est mon Jésus, ça. J'aime trop ça. Et je vous dis, je boue en moi-même parce que je pense que les tripes de Jésus bouent ce matin parce qu'il veut du concret dans nos vies. Ça a trop duré qu'on est seulement spi. C'est très bien, c'est la base de tout. Mais Jésus veut que le ciel vienne sur terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce qu'on oublie cela? On n'est pas simple dans notre foi quand on oublie ces choses-là. Et j'ai longtemps été complexe dans ma foi car j'ai oublié ces choses-là. Et on le voit dans ce texte. Marthe, c'est vraiment nous. Ce que Marthe va faire, et je vais terminer là-dessus, ce que Marthe va faire, c'est quoi? C'est qu'elle va avoir un discours avec Jésus. On le voit à partir du verset 20. On peut lire verset 20, 27. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que on peut méditer sur ces points-là. C'est vraiment nous. Regardez ce qui se passe. Marthe, donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au devant de lui, mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oh là là, l'accusation. « Si tu n'avais pas prononcé le « donc » au verset 6, Seigneur, Lazare ne serait pas mort. » Marthe a envie de changer le « donc » en « pourtant » et « pourtant ». Non, le « donc » a sa valeur. « Seigneur, si tu étais venu, Lazare ne serait pas mort. » Et vous allez dire, mais Marthe, elle croit là. Elle croit. Parce qu'elle sait que si Jésus était arrivé, Lazare aurait été guéri. Jésus l'aurait guéri. Elle a une foi, mais elle a une foi qui accuse et une foi qui est circonstanciée à sa façon. Quelquefois, je veux que les choses se fassent à ma façon. Qu'il y ait exactement une vieille dame qui vienne avec une paire de baskets et qui me donne comme exactement ça a été fait pour Fabien. Mais non, Jésus agit à sa façon. Que ta foi soit simple. Ne cherche pas à comprendre le comment de Dieu. C'est lui qui le fait. Cherche simplement à comprendre spirituellement qu'il il est là et qu'il veut que tu le vives physiquement. Mais Marthe continue. C'est vraiment, elle a la foi, cette dame, j'aime bien. Marthe continue. Elle dit au verset 22, « Mais même maintenant, oh ça c'est bon, et même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » On aurait pu s'arrêter là. Super. Marthe accuse. Elle aurait voulu que ça se fasse en mode guérison. Là, maintenant, son frère est mort. Il faut forcément que le miracle se fasse en mode résurrection. Scientifiquement parlant, c'est encore plus compliqué. Mais elle se dit, bon, j'ai quand même affaire au roi des rois, au fils de Dieu. Et je sais que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu va le faire. Mais est-ce qu'il va le demander à Dieu quand même? Il y a quand même une démarche de foi, là, hein, de Marthe. On va continuer le discours. Et je vous laisse méditer sur ces choses-là. Et je prie que le Saint-Esprit vous fasse monter à l'esprit ce qu'il veut qu'on comprenne ce matin. Jésus lui dit, verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Oh, ça, j'aime ça. C'est comme pour Bartimée. Il y a la situation qui se passe. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah oui, guéris-moi, je veux voir clair. Très bien, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit, « C'est bon. Là, c'est bon, là. Tu arrêtes. Ton frère va ressusciter. » Basta, je suis venu pour ça. J'ai dit le donc, j'ai prononcé le donc pour cela. Donc je suis venu pour te montrer le concret dans ta vie. Mais non, Marthe va continuer. Elle est tellement théologique, elle est tellement spi, elle est tellement credo. Elle va commencer à réciter le credo des évangélistes. Marthe va se mettre en mode credo. Elle va dire ceci. Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Oui, mais c'est pas ce dont Jésus est en train de te parler. Il le sait, ça. Il sait que tu le sais. Il sait que tu seras sauvé, il te l'a dit. Que tu vas passer l'éternité avec lui dans le ciel, il te l'a dit. Que tu n'auras plus de maladie dans le ciel, il te l'a dit. Que tu n'auras plus de souffrance dans le ciel, il te l'a dit. Que dans le ciel, c'est paix, joie. Il n'y a pas de ténèbres, il te l'a dit. Oui, mais Jésus te parle de maintenant. Il me parle de maintenant. Ça boue en moi. Pourquoi est-ce que je reporte tout au royaume de Dieu? Il dit maintenant, sur terre comme dans le ciel, mon ami. Oh, Seigneur. Ému de compassion, les tripes de Jésus bouillent ce matin. Et quand je préparais ce message, je le sentais tellement fort que j'étais rempli de larmes. Et je suis dans cette émotion encore ce matin. Ça boue. Qu'est-ce que vous attendez pour croire simplement que ça se passe? Qu'est-ce qu'on attend, mes frères? Marthe, c'est nous, ça. C'est nous. Je suis une Marthe en puissance. Un Marthe en puissance. Regardons ce qui prend place ensuite. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela ?» Ouais, tu veux parler théologie, on va parler théologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et Jésus lui dit cela. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois toutes ces choses? Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Elle est top, elle connaît sa Bible, elle la boit tous les jours, elle connaît la parole de Dieu. Elle peut vous citer des versets comme ça, autant que vous voulez. Mais là, elle ne capte pas que Jésus veut faire quelque chose pour son frère. Là, maintenant. Et regardez ce qui va se passer quand vous lisez le passage, que vous allez plus loin. Il y a tous les habitants qui vont s'y mettre aussi. Quand Jésus va dire, roulez la pierre, Marthe va dire, mais il sent déjà. Mais regardez le discours que Jésus a déjà eu avec elle. Elle va dire, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Arrête, c'est pas la peine. Scientifiquement, ce n'est plus possible. Les muscles sont en décomposition. Les nerfs sont en décomposition. Il y a des asticots de partout. Mais comment tu peux faire quelque chose de nouveau avec ce qui est mort, desséché, enterré, pourri? Mais Jésus, c'est à Jésus que tu dis cela. Il veut du concret dans ta vie. Et Jésus va dire, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit, ah, il en avait marre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Arrête maintenant, arrête d'être compliqué, arrête de regarder que les circonstances. Certes, tu sais à qui tu as affaire, tu sais qui je suis, mais tu ne vas pas jusqu'à la compréhension spirituelle vraiment de qui je suis. Je suis l'Éternel des armées. Et si tu crois, tu verras ma gloire se produire. » Et Jésus a prononcé le « donc » au verset 6 pour que cela se passe ensuite dans les versets, à partir de verset 40 au verset 44. Mes amis, Dieu veut nous emmener à une compréhension simple. Une compréhension simple et une foi simple, pas une foi naïve. L'Éternel ne veut pas que tu crois en suivant les autres parce que telle personne a prié et ça s'est passé ainsi, je vais faire de la même façon. Dieu ne veut pas que tu sois naïf dans ta foi. Dieu veut que tu aies une foi simple, mais pas une foi naïve. Je pense que c'est le point principal du message. Une foi simple, mais pas naïve. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses vivre le concret. Et ne t'inquiète pas, parce qu'il sait toutes choses. Il n'est jamais surpris. Il veut que tu vives le concret. Si tu es simple dans ta façon de croire ce matin, si tu es simple dans ta façon de croire dès à présent, tu vas vivre le concret de Dieu dans ta vie. Arrête de raisonner en disant « c'était pour les chrétiens de la première époque, c'était pour les chrétiens des premiers siècles, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de démonstrations de puissance ». Écoutez, regardez ceci. Vers Marc chapitre 16, versets 17 à 19. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce que dit Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, il n'est pas marqué qui accompagneront les chrétiens de la première époque. Ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois en Dieu? Et je pense que si j'appuie sur le play du credo évangéliste pentecôtiste, on va tous le réciter. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu le Saint-Esprit, blablabla. Je crois à la résurrection des morts. On va le réciter. C'est très bien. Là, tu es bon. Tu es dans la première partie de ce verset. Mais il dit, voici les signes qui t'accompagneront. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Tu as la capacité aujourd'hui de chasser des démons. Il y a des démons, il y a des gens qui sont possédés, qui viennent à toi. C'est pas que pasteur Mathieu, Joël ou Romarie. Non. Toi, tu as la possibilité de chasser les démons parce que tu as cru. Tu as cru. Et ces signes doivent t'accompagner aujourd'hui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Moi, j'ai vécu cela avec ma mère qui a été empoisonnée, mais ça ne lui a rien fait. Elle a mangé un repas alors qu'elle a été empoisonnée par quelqu'un de mal intentionné. Le Saint-Esprit lui a dit, écoute, tu ne touches pas. Et elle a vu la main de Dieu. Dieu le fait aujourd'hui. Ce n'est pas une pensée d'esprit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il parle de ceux qui auront cru. Il parle de toi. Il parle de moi. Dans ta situation, tu peux t'imposer même les mains. Parce que tu as cru, le miracle va te suivre. Et j'aimerais qu'on puisse capter cela aujourd'hui. S'il vous plaît, si je pouvais vous supplier, soyons simples. Est-ce que tu peux croire simplement que c'est possible? S'il te plaît, crois-le simplement. Et en croyant simplement, tu sais en qui tu as cru. Fais le constat physique, fais le constat intellectuel, fais le constat scientifique, fais-le, c'est très bien. Et en face, tu fais le constat de la puissance de Dieu, du Créateur de l'univers, de l'Éternel des armées, de celui qui guérit, de celui qui pourvoit, de celui qui a dit « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et il a dit à ce moment-là, c'était tellement important pour Jésus que regardez ce qui se passe. Verset 19 de Marc 16, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Les derniers mots. Il y en a certainement d'autres. Mais ce que dit la Bible ici, il prononce cette phrase, ce paragraphe, et il monte au ciel. Comme pour dire, voici le cachet, les amis. Je m'en vais, je vais être assis à la droite de Dieu. Ça représente la puissance qui va se démontrer. Et avant d'aller s'asseoir dans cette puissance, toute puissance, il dit, voici les signes qui vont vous accompagner. Il n'a pas dit qu'ils vont se manifester dans le royaume de Dieu. Il dit là, maintenant, et je veux qu'on puisse le vivre aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Et on va prier, je vais prier pour chacun de nous, ça boue en moi, j'avais plusieurs autres éléments à partager, mais vous pouvez méditer la parole, vous pouvez voir la femme qui avait la perte de sang dans Marc 5, je pense, et qui va aller tout simplement dans la foi. Elle sait à qui elle a affaire, elle va aller toucher juste le bord de son vêtement et elle va être guérie. Les amis, c'est cette foi-là que je veux qu'on ait, pas une foi naïve. Tu sais en qui tu as cru, je sais en qui je crois, son nom est Jésus, son nom est le Créateur, son nom est celui qui délivre, celui qui guérit. Tu as des angoisses dans ton cœur, Dieu veut te délivrer de ces angoisses. Tu as la maladie qui t'entraîne et qui te tient captif depuis un moment. Au nom de Jésus, je prie que cette maladie lâche prise maintenant, parce que je crois simplement, pas de complexité. Seigneur, je veux prier pour chacun. Alors que chacun, nous fermons les yeux et que nous allons pouvoir même continuer dans les groupes de maison ou pour quelqu'un qui écoute ce message après, pouvoir prier là où il se trouve alors qu'il écoute ce message. Je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester. Je prie, Seigneur Dieu, parce que tu l'as prévu, tu l'as promis, tu as dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère en face croit, moi je crois, ma sœur en face croit. Moi, je crois, nous croyons, nous connaissons en qui nous avons cru et nous ne voulons pas de foi complexe qui va essayer de penser à autre chose que ce que tu fais concrètement. Je veux être simple dans ma foi et voir ta main agir. Saint-Esprit, étends ta main. Saint-Esprit, étends ta main, s'il te plaît. Je prie que des vies bougent maintenant. Je prie que des situations soient débloquées maintenant. Je prie que des recherches d'emploi soient débloquées maintenant. Je prie que la maladie s'enfuit maintenant. Je prie que les démons quittent les corps maintenant. Je prie que le Saint-Esprit prenne place. La démonstration de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça prend place dans ton corps maintenant, mon frère. Ça prend place dans ton corps, ma sœur, dans ta vie. Jésus est en action. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia.